Geoffroy de la Gannerie, bonsoir.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir à la librairie Mola pour ce nouveau livre qui s'intitule « L'âme noire de la démocratie, manifeste pour un autre idéal politique », paru chez Flammarion, collection Nouvel Avenir, un livre de 200 pages tout récent. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes sociologue et philosophe et vous avez publié de très nombreux ouvrages, dont déjà plusieurs ont été discuté ici, donc j'ai presque pas besoin de présenter l'auteur, mais je citerai quand même donc par-delà le principe de répression 2025, Se méfier de Kafka 2024, ou encore Une aspiration au dehors, L'éloge de l'amitié 2023. Donc tous ces livres que vous pourrez retrouver tout à l'heure. Alors ce livre, évidemment, il a un titre et un sous-titre. Il est évidemment ce titre, L'âme noire de la démocratie, un choc, comme la critique d'une des valeurs cardinales qu'on est censé tous et toutes partager, et avec évidemment un sous-titre qui rattrape notre cœur bondissant, c'est-à-dire évidemment un autre idéal, une ligne de fuite vers quelque chose de mieux. Vous le dites en entrée de jeu, c'est intéressant, il y a une sorte de TINA autour de la démocratie. Alors c'est quoi TINA? C'est « there is no alternative », c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative, un terme qu'on utilise souvent pour parler du néolibéralisme, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, vous n'avez pas le choix, et vous êtes censé adhérer à ce principe démocratique. Vous parlez donc, et c'est bien dit, d'un tabou de la critique radicale de la démocratie. C'est peut-être d'ailleurs ce tabou qui vous a amené ici, vous avez voulu réagir. Et vous montrez que ce mot très très flou, finalement, il sert aujourd'hui à justifier des gouvernements, des régimes répressifs, policiers pour certains, des régimes que vous qualifiez du point de vue des affects politiques d'étouffants, avec ce paradoxe que même les gens qui se battent contre la démocratie le font au nom d'un principe démocratique. Alors ma première question est très simple, hors de la démocratie, point de salut.
Aujourd'hui, oui. J'espère qu'avec mon livre, ça pourra peut-être changer. Mais c'est vrai que le point de départ du livre, c'est de me baser sur une intuition et sur un constat qui est que dans le champ discursif contemporain, personne ne se présente comme n'étant pas démocrate ou pouvant être contre la démocratie. Et tout le monde, lorsqu'il prend la parole politiquement pour appuyer une orientation, pour appuyer une réforme, même institutionnelle, le fait toujours au nom de la démocratie, au nom d'une perfection de la démocratie, au nom d'une démocratie plus radicale. Et donc on assiste dans le champ contemporain à une forme politique contemporain, à une forme d'unification des signifiants politiques autour de ce mot démocratique qui peut rassembler des gens aussi différents que Mamdani et Meloni, que Trump et Bolsonaro, que Trump et Mélenchon, que Bolsonaro et certains anarchistes, etc. Et donc on a une forme de consensus autour de l'idée selon laquelle un régime bon serait toujours un régime démocratique. Et c'est toujours intéressant quand vous faites l'analyse d'une société, par exemple, quand vous vous inspirez des travaux que Michel Foucault a fait dans Les mots et les choses avec la notion d'épistémé, où Foucault disait, en fait, ce qui est intéressant quand vous faites l'analyse historique d'un moment du savoir, c'est pas tellement de savoir ce dont les gens débattent, mais c'est de savoir ce dont ils ne débattent pas quand ils débattent. Et donc, quels sont les points de consensus, qui sont les conditions du dissensus et qui sont un peu les inconscients partagés par un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, nous vivons dans un moment historique qui est marqué par une forme de domination de la croyance dans les vertus nécessaires de la démocratie, ce qui se voit au fait que très souvent, quand des pouvoirs nocifs, sadiques, autoritaires prennent le pouvoir, comme Bolsonaro, comme Milei, comme un héritier de Pinochet au Chili, comme Trump, comme Meloni, on va dire qu'ils incarnent des menaces pour la démocratie. On va dire qu'il faut défendre la démocratie contre eux, et jamais on va se poser la question, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas être des représentations d'une potentialité de la démocratie? Et est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement dans la démocratie quelque chose qui, en fait, favorise des politiques autoritaires, qui favorise des affects sadiques, qui favorise des politiques injustes? Si jamais tel est le cas, alors est-ce que nous ne pourrions pas, en tant que progressistes, assumer d'imaginer aujourd'hui un autre imaginaire politique? Je crois qu'il est très important pour comprendre l'idée du livre, c'est de dire, moi je suis très influencé par la pensée un peu dialectique, où l'un des modèles de ce livre, ça a été le Manifeste du Parti communiste de Marx, puisque le Manifeste du Parti communiste de Marx, c'est un livre très, très, très impressionnant, évidemment, tout le monde le sait, parce que c'est un livre qui part d'abord du fait que le capitalisme et la bourgeoisie ont été des forces révolutionnaires, et qui insiste sur la manière dont le capitalisme a libéré les individus, notamment des suggestions féodales et des emprises des structures de gouvernement féodales, et qu'il a, au nom du marché, au nom de l'individu, libéré en un sens les individus d'un certain nombre d'oppressions, mais ça n'empêche pas que le capitalisme a reproduit un certain nombre de systèmes de domination formation interne, et que pour cette raison, on peut imaginer encore un autre système plus libre, plus émancipateur, plus riche, qui est ce qu'il appelle le communisme. Mais moi, c'est un peu la même chose que j'ai voulu faire. Je ne veux absolument pas nier que la démocratie est un progrès par rapport à des formes de gouvernement autoritaire ou fasciste. Et il est évident que si moi j'avais été être amené à être jeté au monde en Corée du Nord ou en Iran ou au Venezuela, je me battrais pour la démocratie. Il n'y a absolument aucun doute par rapport à ça. La démocratie est incontestablement un progrès par rapport à des formes de gouvernement autoritaire. Mais il faut toujours se méfier dans une société de cette impression dont Hegel faisait déjà l'un des points noirs de toute forme de pensée, qui est que nous sommes à la fin de l'histoire. C'est-à-dire de penser que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire et qu'il n'y a plus de futur possible. Et donc moi, je considère que la démocratie est un moment historique, est une gouvernementalité qui a été très importante, qui est extrêmement importante à protéger sur certains aspects. Mais ça n'empêche pas qu'en tant que progressiste, nous pouvons peut-être imaginer encore une autre manière d'imaginer qu'est-ce que c'est gouverner, qu'est-ce que c'est qu'une loi, comment est-ce qu'on prend des décisions, qui est habilité à prendre des décisions, quels sont les principes du gouvernement. Et donc de ne pas rester en quelque sorte coincé dans la philosophie du contrat social du XVIIIe siècle. Tout change dans une société, l'économie change, la famille change, toutes les structures économiques et sociales changent. Donc pourquoi les structures politiques ne pourraient pas changer? Et donc j'ai essayé en quelque sorte dans ce livre d'aller chercher dans les principes fondateurs de la démocratie, la notion de citoyenneté, la notion de communauté politique, la notion d'autogouvernement, la notion de représentation, la notion de débat d'opinion, de voir est-ce que, en fait, dans ce dispositif de mental, il n'y a pas des points noirs, il n'y a pas ce que j'appelle dans cette âme noire de la démocratie, et donc que nous sommes fondés rationnellement à imaginer un système plus juste, moins autoritaire et plus favorable aux valeurs de liberté et de progrès.
Alors, effectivement, vous l'aurez compris, le livre n'est pas un plaidoyer pour la dictature, puisque effectivement, quand on critique la démocratie, elles sont tellement le droit et le revers d'une même pièce qu'on a l'impression que toute personne qui critiquerait la démocratie serait évidemment suspect d'avoir des sympathies pour des systèmes autoritaires ou dictatoriaux. Vous avez bien vu que c'était pas le cas. Et évidemment, le livre qui est écrit de manière très enlevée, ça se lit vraiment d'une seule traite quasiment, démontre évidemment une volonté de progrès. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que progressiste, vous le répétez ici à l'oral. Ce qui est intéressant au demeurant, c'est que vous tentez, vous le dites en introduction, non pas une critique de la manière dont la démocratie est mal faite maintenant, la manière dont elle pourrait être dépassée comme ci, comme ça, vous y venez un peu plus tard dans le livre, mais vraiment l'âme noire, c'est-à-dire un problème consubstantiel, pas un accident de la manière dont la démocratie est faite maintenant. Et pour ça, vous convoquez, c'est dans le début du livre, vous convoquez ce penseur américain Thoreau, qui est parfois vu comme un précurseur de l'écologie, qui avait décidé de quitter le monde des hommes pour une vie plus libre. Et dans Thoreau, Henry Thoreau, il y a cette idée que la démocratie ne se pose quasiment pas la question des objectifs vers lesquels elle tend, qui devrait être, ce que dit Thoreau, la justice, et qu'elle se pose surtout des questions de méthode sur la manière de faire le vote. Et donc, c'est là-dessus que vous insistez pour dire, voilà, le premier point noir, cette âme noire de la démocratie, c'est finalement la contradiction très forte entre, mettons, le vote qui serait une manière de faire vote démocratique, mais qui ne garantirait en rien une politique juste. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ce thème-là, l'idée de justice, comment elle est fondamentale pour vous?
Oui, c'est très important parce que je pense que dès qu'on ouvre un champ de recherche ou une pensée, qu'est-ce que ce serait un progressisme critique de la démocratie, on découvre aussi toutes des traditions un peu cachées, un peu oubliées de la théorie politique et la domination de plus en plus grande d'une pensée d'ordre démocratique dans nos systèmes politiques ou même nos systèmes philosophiques a eu aussi pour conséquence de marginaliser un certain nombre d'auteurs et de certain nombre de traditions. La tradition de Thoreau, la tradition de Bakounine, que je mobilise beaucoup dans le livre, la tradition anarchiste, Simone Veil, la philosophe, Durkheim, par exemple, comme sociologique, qui dans Leçon de sociologie, qui a fait une critique de la démocratie, Nozick, la tradition libertarienne. Donc j'essaye de rassembler un peu des traditions oubliées, minoritaires, marginalisées par l'hégémonie de la construction démocratique des problèmes, pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières de penser la politique et de fonder le droit à gouverner et l'acte de gouverner. Et parmi les textes qui m'ont toujours semblé extrêmement puissants d'interrogation de l'idée démocratique, c'est la désobéissance civile de Thoreau, qui, la désobéissance civile de Thoreau, est très souvent lue comme un livre qui veut justifier l'idée de désobéir aux lois et de partir et de quitter un État avec lequel on se sent en désaccord, puisque l'État, du moment de Thoreau, fait la guerre au Mexique et pratique l'esclavage. Et Thoreau dit « Moi, je ne veux pas participer à un État qui met en place de telles mesures, donc je refuse de collaborer au système et je me retire du système », ce qui fait qu'il va en prison puisqu'il ne paye pas ses impôts. Mais dans le livre, l'axe fort, c'est pour moi l'expression de ce que j'appelle l'expérience politique pure, C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de se sentir enfermé dans un système politique qui nous impose de vivre dans un monde qu'on ne veut pas et qui le fait au nom de principes démocratiques. Soros dit dans le livre, moi je considère que ce pourquoi je dois me battre et ce que doit normalement accomplir l'État, c'est la justice. C'est une pensée politique de la justice, de la protection des autres, de la protection de la vie, de l'égale considération des individus. Mais je constate qu'en aucun cas, ce qu'on appelle la démocratie ne peut et ne se fixe comme règle première d'aboutir à la justice. Comme il le dit, un vote, une élection, c'est un moment où vous ne savez pas, ça peut tomber d'un côté, ça peut tomber de l'autre. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir, si vous respectez le vote, des gouvernants sadiques, autoritaires, qui vont prendre le pouvoir. Si jamais vous pensez en termes de majorité, bah, on sait très bien, vous pouvez très bien avoir des majorités injustes, des majorités violentes. On le voit en ce moment au Sénégal avec le fait qu'il y a la criminalisation de l'homosexualité qui a été augmentée et qui est majoritaire dans le pays. Et ça n'empêche pas qu'une majorité peut avoir tort contre une minorité qui a autant le droit de vivre qu'elle. Et donc la règle de la majorité ne garantit pas du tout la justice. Soros prend, il y a le vote, il y a majorité, bon, il y a d'autres exemples. Mais donc si vous voulez, il va l'obéissance à la loi, qui est préconisé dans la démocratie comme étant une obligation, puisque la loi représente la volonté générale, et il dit, ben en fait, rien ne nous garantit qu'une loi est juste. Vous pouvez avoir des lois injustes, des lois qui tuent, comme la mort d'Adama Traoré, et vous pouvez avoir des choses illégales qui sont justes, par exemple des faucheurs d'OGM ou les bateaux des SOS Méditerranée qui vont chercher des migrants dans la mer. Donc, en fait, la loi ne garantit pas la justice non plus. Et donc, tout le livre de Soros, en fait, La désobéissance civile, c'est un livre qui érige la justice comme finalité de la politique et qui, à partir de l'érection de la justice comme finalité de la politique, est amené à questionner l'ensemble des concepts de base de la démocratie, que moi j'appelle des concepts procéduralistes, c'est-à-dire qui considèrent qu'on crée un système politique sur des procédures qu'on estime démocratiques et on est indifférent aux résultats de ces procédures. On va faire un système où il y aura un débat d'opinion, on va faire un système où il y aura un vote, on va faire un système où il y aura des lois appliquées par la police, et si jamais on a respecté la procédure, on est légitime à gouverner dans l'état donné, dans l'état démocratique. Mais moi, si je pense en termes de justice, eh ben, je peux être minoritaire, je peux avoir perdu une élection, je peux être dans l'illégalité, et pourtant la justice est de mon côté. Donc vous avez ici une tension entre une pensée politique de la justice et une pensée démocratique de la procédure. Et la solution que Soros trouve, c'est de se retirer. C'est de dire, bah, moi, donc, j'arrête mon consentement à la société et je pars, comme vous le dites, dans une vie plus campagnarde, plus nomade, plus solitaire pour m'éloigner de la société politique. Et moi, je reprends en quelque sorte cette tradition en disant, bah, non, moi, je vais reconstruire. D'où le manifeste pour un autre idéal politique. Je vais me dire, si jamais la démocratie rend possible une indifférence pour la justice, alors est-ce que une pensée politique de la justice n'amène pas à une critique de la démocratie et donc amène à fonder sur d'autres principes qu'est-ce que c'est que la légitimité, qu'est-ce que c'est que gouverner, etc. Je souligne dans mon livre que ce biais procéduraliste, il est très puissant. Vous savez, très souvent, quand on critique la démocratie représentative, par exemple, on dit on veut plus de référendums, où on veut plus de tirage au sort, où on veut le référendum d'initiative citoyenne. Mais là aussi, vous répondez à des procédures par des procédures, parce que rien ne vous garantit qu'un référendum va aboutir à des résultats justes. Il y a eu, Le Monde a publié en janvier un article sur les opinions dominantes chez les Français, un sondage, qui était tout simplement effrayant. Aujourd'hui, vous avez 60% des Français qui sont pour l'abolition du droit du sol. Vous avez 61% des Français qui est pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Vous avez 62% des Français qui sont pour la suppression de l'aide médicale d'État. Donc si vous faites des référendums d'initiative citoyenne, vous pouvez très bien aboutir au programme de Jordan Bardella, c'est-à-dire à des mesures qui sont objectivement blessantes, injustes, brutalisantes. Ils sont même à 60% pour donner plus de pouvoir à la police. Bon. Donc vous avez vous ne pouvez pas répondre à l'injustice que vous constatez dans un système par d'autres procédures si vous ne garantissez pas que ces procédures vont aboutir à un certain nombre de normes substantielles de protection des autres et de justice sociale. Et ce biais procéduraliste, le fait de croire que des procédures sont suffisantes pour garantir la légitimité, on la voit dès le contrat social de Rousseau, puisque le contrat social de Rousseau que j'analyse dans mon livre est un livre extrêmement intéressant, puisque c'est un livre qui va fonder l'idée selon laquelle l'agrégation de volonté individuelle peut aboutir à une volonté qu'il appelle générale, mais jamais Rousseau ne fait intervenir dans son raisonnement qu'est-ce qui façonne ces volontés, comment est-ce qu'elles sont formées, qu'est-ce qu'elles visent, à quoi elles aboutissent. Et donc il dévitalise la politique en quelque sorte en faisant sûrement un problème mathématique d'agrégation d'opinions et sans se poser la question des conséquences de ces opinions. Et donc moi j'ai voulu dire, voilà, dès qu'on pense en termes de construction démocratique des problèmes, on pense en termes de procédures et on pense en termes de respecter les procédures. Moi, j'ai voulu dire, Et donc, la légitimité, elle est ce que j'appelle dans mon livre ex ante et formelle, c'est-à-dire que vous avez acquis le droit à gouverner parce que vous avez respecté les procédures, vous êtes conforme aux formes démocratiques, et donc vous êtes légitime à gouverner. Donc, la théorie politique de la légitimité qui découle de l'idée démocratique, c'est une théorie procédurale de la légitimité. Et j'essaye d'esquisser dans mon livre la possibilité de penser, d'inverser totalement le problème, et de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas fonder la légitimité sur les conséquences des actions en termes de vie, en termes d'effets sur les corps, en termes d'effets sur la blessure et la mort, et donc de concevoir une évaluation des opinions du point de vue de leurs effets, et donc de faire une théorie de la légitimité ex post et substantielle, c'est-à-dire de les évaluer. Je prends un exemple tout simple. Si vous vous présentez à une élection et que vous dites « Mon programme, ça consiste à tuer tous les SDF à 45 ans, par exemple », bon, on va probablement dire que vous avez un programme extrémiste et vous interdire de vous présenter. Si vous dites, moi, mon programme économique, c'est qu'on tue tous les pauvres à 70 ans, on va dire pareil que vous êtes extrémiste. Mais si vous dites que vous êtes pour un programme néolibéral, ou si vous dites que vous êtes contre la réquisition des logements, vous pouvez vous présenter. Or, aujourd'hui, l'espérance de vie des SDF, c'est 47 ans en France. C'est pour ça que vous ne croisez jamais un SDF âgé parce qu'ils sont tous morts. Et l'espérance de vie des 5% personnes les plus pauvres en France, c'est 70 ans. Donc c'est le même programme, en fait. Mais il n'est pas énoncé pareil, il est énoncé en termes d'opinion démocratique qui peut se présenter dans le marché des opinions et être élu. Donc la démocratie rend possible que des opinions meurtrières, sadiques, blessantes, soient légitimées par des procédures. Et moi, je dis, si jamais on part de l'idée de justice, et que moi, j'appelle dans mon livre le vitalisme, c'est-à-dire de protéger les forces de la vie, alors on pourrait discriminer les opinions et, en quelque sorte, faire rentrer la théorie politique dans l'ère de la scientificité, en quelque sorte, c'est-à-dire de tester les opinions, de voir leurs effets concrets sur les corps et sur les vies, et donc de dire, si ton opinion, on sait scientifiquement qu'elle aboutit à plus de mises à mort, plus d'inégalités dans le rapport à la blessure, plus d'exposition à la pollution et à la maladie, eh bien, elle est illégitime en ce sens-là, et donc on t'exclut du droit à gouverner.
Alors ça renvoie à des questions que je vais poser juste après. J'en profite sur cette question. On avait reçu Didier Fassin dans son livre sur la société qui vient, sur l'inégalité des vies, l'inégalité même à la naissance de l'espérance de vie. Donc c'est des éléments qui montent dans ces réflexions-là. Alors avant d'en venir effectivement aux choses que vous proposez, et notamment à ce vitalisme, j'y viens juste après, c'est la question d'après. Je voulais juste une petite question intermédiaire. Dans la question de la critique de la démocratie, il y a un livre qui commence à dater, mais qui avait été un classique, qui était le livre de Bernard Manin, qui s'appelait « Principes du gouvernement représentatif », 1995, ça ne nous rajeunit pas. Et Manin, en fait, je ne résume pas le livre, mais en se référant à un modèle qu'on a tous quand même, même si on ne le connaît pas, à la démocratie grecque, à ces mécanismes de la démocratie grecque, le tirage au sort, la rotation des charges, nous disait qu'en fait, les deux derniers siècles, et je pense que c'est important parce qu'on arrive bientôt en 2026, il va y avoir du coup les 250 ans de la Révolution américaine, Manin nous disait, la Révolution américaine et la Révolution française ont, je ne vais pas dire détruit la démocratie, mais ont substitué aux connaissances réelles des techniques démocratiques, du tirage au sort, etc., le gouvernement représentatif, qui n'est pas une démocratie, qui est ce qu'on vit, 5 ans, une délégation de pouvoir à quelqu'un qui ensuite en fait ce qu'on veut. Alors, juste, je ne développe pas. Une question que je me posais, c'est quand même Manin, qui est un pragmatique, dit, bah, finalement, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement représentatif et qu'est-ce qu'on a quand on est confronté à cet étouffement, au fait d'être enfermé? On a le vote négatif. 5 ans plus tard, on vote pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, finalement, ce n'est pas le bouton de secours de ce sentiment d'étouffement?
Le livre de Manin, il est très intéressant. C'est un livre très classique et très beau d'histoire de la pensée, d'histoire des institutions politiques, où effectivement, eh ben, il a fondé un des discours qui est peut-être le plus puissant, disons, dans la gauche radicale et dans la critique de la démocratie représentative, qui consiste à dire, en fait, la démocratie représentative n'est pas de la démocratie, puisqu'en fait, l'élection fonde une nouvelle oligarchie élue, qui se fonde sur une dépossession des dominés par les dominants et une forme d'accaparement du pouvoir, et qui recrée une caste, en fait, qui a une minorité qui peut gouverner, en gros, la majorité, et qu'en fait, entre la structure de gouvernement aristocratique et la structure de gouvernement de démocratie représentative, il n'y a pas une différence de nature fondamentale, et que donc, en fait, nous ne vivons pas dans des démocraties, mais le système représentatif n'est pas un gouvernement représentatif. Et en fait, et Manin cite des textes, d'ailleurs, très intéressants, où il montre que l'élection a très souvent été critiqué comme un système non démocratique, puisqu'il recrée de la frontière entre gouvernants et gouvernés, il recrée de la captation de pouvoir, il recrée de la frontière entre les dominants et les dominés, les politiques et la masse, si on veut, et qu'en ce sens, nous ne vivons pas dans des démocraties. Alors là où j'ai un... Donc je pense que c'est très intéressant cette idée-là, mais là où j'ai un écart... Et donc, en fait, ça fonde beaucoup des discours contemporains qui sont de dire il faut créer des démocraties plus directes, c'est-à-dire notamment abolir le système de l'élection et de l'oligarchie représentative pour passer à des formes de démocratie beaucoup plus directes, des assemblées directes, du référendum d'initiative citoyenne, du mandat révocable. Une grande partie du programme de la France insoumise, des constituantes, sont inspirées en fait de cette idée-là qu'en fait, une démocratie plus directe est une forme de contrepoint possible à la fausse démocratie représentative. Alors, je nie pas du tout le caractère non intéressant de cette tradition de pensée. Là où j'ai une petite différence, et là où j'essaie de pousser mon analyse un peu plus loin, c'est de dire, en fait, y compris dans les aspirations à une démocratie plus directe, restent des coins, si vous voulez, ou des impensés qui restent problématiques du point de vue du progressisme, selon moi. Je prends juste un exemple, qui est cette idée selon laquelle n'est pas démocratique un État dans lequel vous avez une coupure entre gouvernant et gouverné, et plus démocratique un État où vous abolissez, ou disons, où vous réduisez au minimum cet écart, à travers le tirage au sort, par exemple, ou à travers des référendums d'initiative citoyenne, etc. Alors, moi, je dis tout de suite que pour moi, il y a deux impensés à cette pensée, et c'est ça que j'essaie de critiquer, et c'est pour ça que mon livre critique pas seulement la démocratie représentative, mais critique aussi ce qu'on oppose très souvent à la démocratie représentative. D'une part, à un moment du livre, je dis, en m'inspirant de certains textes de Michel Foucault ou des textes d'Émile Durkheim, que, en fait, l'idéal d'autogouvernement n'est pas un idéal progressiste. Et que très souvent, dans le progressisme, il y a au contraire eu cette insistance sur le fait que l'État ne devait pas représenter les perceptions spontanées diffusées dans la population, mais devait être plus rationnel, devait être plus juste, devait être plus audacieuse, devait être plus imaginative, et que parfois, oui, être progressiste, ça veut dire être minoritaire. Et Foucault prend l'exemple, par exemple, de l'abolition de la peine de mort, pour l'exemple des premières lois sur les immigrés de François Mitterrand, en disant que c'était des mesures qui étaient minoritaires dans la population, mais c'est précisément en ça qu'elles étaient progressistes, parce qu'elles ne suivaient pas l'opinion la plus courante, et qu'elles introduisaient quelque chose de plus rationnel et de plus juste par rapport aux opinions diffusées dans la population. En ce sens, un idéal progressiste peut être un idéal dans lequel l'État est un lieu d'imagination, est un lieu de plus grande rationalité par rapport à ce qui est à l'œuvre dans le monde. Dans le droit pénal, qui est un des domaines sur lequel je travaille beaucoup, et mon précédent livre sur l'abolition pénale, j'en parlais, mais par exemple la prescription des crimes et des délits ou le non-lieu psychiatrique sont typiquement des normes juridiques qui sont très souvent en écart avec les demandes des victimes au nom d'une rationalité juridique différente. Et c'est cet écart entre les perceptions spontanées et une rationalité juridique qui fonde le fait que c'est intéressant. Et donc, est-ce que c'est intéressant l'État s'il représente la population, ou est-ce que ce qui est intéressant dans l'État, parfois, c'est justement qu'il ne représente pas, qu'il fait des choses audacieuses, qu'il fait des choses imaginatives, qu'il fait des choses inattendues? Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que l'idéal d'un gouvernement qui abolirait frontières gouvernant-gouverné serait un idéal progressiste. Et puis, dans ces idéaux de démocratie directe, il y a un idéal fusionnel. Il y a cette croyance complètement absurde dans un monde d'antagonisme que vous aboutirez à quelque sorte d'une forme de loi qui représenterait le peuple. Mais de toute façon, aucune loi ne représentera le peuple. Un peuple, ça n'existe pas. Un peuple, c'est des fractions, c'est des divisions, c'est des oppositions, c'est des conflits, c'est des antagonismes. Et que vous fassiez des RIC toute la journée, vous aurez toujours 52 contre 48. Et donc, vous retrouvez le problème de quelqu'un qui gouverne quelqu'un d'autre. Et vous retrouvez le problème, pourquoi est-ce que 52 devrait l'emporter sur 48? Est-ce que la loi doit être la loi du plus fort? Puisqu'on dit toujours que la démocratie abolit la loi du plus fort, mais si vous faites la loi sur les 52 contre les 48, en fait, c'est les plus forts qui imposent leur loi et pas la rationalité. Et parfois, les 42 ont raison contre les 58. De ce point de vue-là, si jamais vous avez un idéal procédural de démocratie directe et que vous pensez en termes d'unanimité, vous passez à côté de l'importance des problèmes politiques qui sont des problèmes de clivage. Toute loi sera clivante. Toute loi, vous aurez des gens qui ne les voudront pas. Toute loi, vous aurez des oppositions entre des individus. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les critères qui sont acceptables pour qu'une opinion l'emporte sur une autre. Et moi, je défends l'idée selon laquelle la loi du nombre n'est jamais une loi qui donne du droit. Il n'y a aucune raison pour laquelle, parce que vous êtes minoritaire sur un territoire, parce que vous êtes moins organisé sur un territoire, votre opinion devrait être nécessairement inférieure à ceux qui sont plus nombreux, qui sont nés plus nombreux ou qui sont plus organisés sur ce territoire. Et comme ça ne peut pas être le nombre qui gouverne, et bien ça doit forcément être d'autres critères que j'essaie d'élaborer dans mon livre qui doivent l'emporter. Donc de ce point de vue-là, Il y aura toujours clivage. Donc la question, c'est à quelles conditions une opinion est légitime à gouverner une autre. Et il y aura toujours nécessairement de l'écart entre l'État et les aspirations spontanées, parce que c'est à ça que sert l'État, fait que pour moi, même l'idée de démocratie directe n'est pas un bon idéal à opposer à l'idée de gouvernement représentatif.
Alors, merci pour cette réponse. Au passage, je suis historien. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu 3 référendums d'initiative citoyenne dans la République de Weimar de 1918 en 1919. Le troisième, c'était un référendum d'initiative citoyenne nazie. Voilà, bon, c'est une manière de dire qu'effectivement, l'histoire nous montre aussi que les référendums, il y avait une démocratie directe très puissante sous Weimar, et ça a donné ça aussi, même si les 2 autres référendums étaient pour eux le coup de gauche. Alors, j'avance un petit peu parce qu'on avance dans le temps et j'aimerais vous entendre sur les propositions. Mais il y a des pages très intéressantes qui m'ont beaucoup intéressé sur la notion d'égalité des opinions en démocratie. Où vous dites que ces égalités, mais c'est pas une question. Voilà, je développe quand même pour l'égalité des opinions qui repose sur un relativisme des idées, soit. Et que ce relativisme des idées, vous le dites, en fait, il est une forme d'indifférence aux autres. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des pages qui secouent. Hein. On se dit, en fait, voilà, ce côté tous pareils, tous égaux, on pense tous pareils et nos opinions se valent, en réalité, peuvent cacher une absolue indifférence à l'autre. Donc c'est intéressant. Alors, si on en vient dans cette critique, au-delà de cette critique, dans ce que vous proposez, la première chose que vous essayez d'amener, c'est, d'une certaine manière, dans cet idéal de justice, dans cet objectif juste, l'idée de ce que vous appelez un vitalisme. Alors, je cite, « une protection de la force des vies et des corps, un combat, ça nous renvoie un peu à face 1, hein, mais un combat contre l'exposition différentielle à la souffrance et à la blessure. » Alors ça, voilà, là, je pense qu'on aimerait vous entendre là-dessus. Comment on fonde cette justice autour de ce vitalisme, autour de la protection de la vie? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, en fait, j'essaie, à partir du moment où je dis la loi du nombre n'est pas un critère suffisant pour appuyer la légitimité, je suis amené à chercher, alors qu'est-ce que ça pourrait être, des critères qui pourraient dire d'une opinion, elle a plus de droits à gouverner qu'une autre. Et où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui fonderait un droit à gouverner sur autre chose que le nombre, qui ne donne aucun droit à gouverner, si ce n'est en démocratie. Et j'essaie de réfléchir, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait un peu universel, qui serait un peu partagé par tout le monde? Et en m'appuyant sur un texte que j'ai toujours trouvé très beau d'Émile Durkheim dans La division du travail social, où Durkheim dit « Il suffit de supposer que les hommes veuillent vivre pour transformer les connaissances en prescriptions politiques. » Cette phrase, elle est belle parce que je pense qu'effectivement, tout le monde sait que tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir à 50 ans d'un cancer lié au travail. Personne ne veut mourir comme Adama Traoré, étouffé par un plaquage ventral. Personne ne veut mourir noyé dans la Méditerranée. Je pense qu'il y a une vérité de l'objectivité des corps, de l'exposition à la souffrance, à la maladie, à la mutilation, qui annule un peu le débat. Vous ne pourrez jamais dire, moi je pense que cette personne, elle veut mourir à 50 ans parce qu'elle a porté des charges de jour toute sa vie. Vous savez bien que vous êtes en train de mentir. Donc à partir de ce moment-là où je dis que quelque chose de l'ordre, d'un vitalisme, donc d'une fait que nous sommes tous des corps souffrants, des corps vivants, et qu'il n'y a aucune raison pour lesquelles sur un territoire des gens meurent avant d'autres, eh bien, est-ce que nous ne pourrions pas faire entrer la politique dans un air de la perfectibilité, de la délibération plus scientifique, de la discrimination intellectuelle, et de hiérarchiser les opinions en fonction des effets qu'elles ont sur les corps et de ce qu'on peut constater des effets qu'elles ont sur les corps. Il y a un livre d'un sociologue que je cite, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Göran Teborn, qui est un sociologue suédois et durkheimien, qui s'appelle « Le champ meurtrier de l'inégalité », qui est un livre sur où il a dit « Moi, je ne vais pas analyser les politiques économiques du point de vue de leurs idéologies, je vais regarder qu'est-ce qu'elles ont comme effet en termes de létalité, c'est-à-dire qui meurt avant qui dans une société à cause de telle politique économique ». Il prend par exemple les politiques néolibérales qui ont été mises en place aux États-Unis avec Clinton puis Bush, et il constate que pendant les 15 ans qu'ont duré cette néolibéralisation de l'économie américaine, vous avez une diminution de l'espérance de vie des hommes blancs de 4 ans et une diminution de l'espérance de vie des femmes blanches de 4 ans et demi ou 5 ans. Et il dit qu'il n'y a que 2 événements qui, dans le monde, ont produit autant d'effets de létalité sur l'espérance de vie. C'est l'épidémie de sida en Afrique australe et la restauration du capitalisme brutal en URSS, à la fin de l'URSS. Donc, qu'est-ce que veut dire Göran Teborn en disant ça? Il dit, en fait, on a objectivé et on peut objectiver que le néolibéralisme économique n'est pas seulement une opinion qu'on peut défendre, mais que, de fait, elle a pour conséquence d'exposer plus systématiquement un certain nombre de populations à la mort, à la blessure, à la maladie. Et donc, du point de vue de mon idée, on pourrait considérer que les politiques néolibérales sont aujourd'hui disqualifiées, parce que quelqu'un qui se présente comme néolibéral, c'est quelqu'un qui dit aux autres « j'ai un droit sur ta vie, j'ai un droit de te raccourcir ton espérance de vie, j'ai un droit de te tuer ». Et si jamais nous considérons que nous n'avons pas le droit de tuer l'autre dans le champ social, là, j'ai pas le droit de vous tuer, par exemple, on est d'accord. J'ai pas le droit de vous dire « bah toi, tu vas mourir à 70 ans ». Voilà. Donc dans, je sais pas quel âge vous avez, mais dans 30, 40 ans, je viens pour vous supprimer. Mais par contre, si je dis ben, « je vais mettre en place une politique néolibérale dans l'université, je vais vous mettre en place de la concurrence, je vais vous priver de la sécurité sociale, etc. Ben, », de fait, vous allez mourir plus tôt. J'aurai eu un droit sur votre vie par le biais des procédures politiques qui auront en quelque sorte légitimé mes opinions sadiques dans le cadre du débat démocratique. Donc moi, la question que j'essaie de poser, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible d'ériger la protection des forces de la vie et l'interdiction de la blessure au champ politique, et donc d'évaluer les opinions politiques du point de vue de leurs effets, ce qui nous permettrait à ce moment-là de faire des opinions politiques, non pas « c'est mon opinion », et puis tant pis si t'es pas d'accord, on a chacun notre opinion, dire « non, non, toi ton opinion elle tue des gens, alors que moi elle protège des gens de la mort, personne ne veut mourir, donc ton opinion est illégitime, et donc tu devrais être disqualifié comme la possibilité de gouverner l'autre ». J'insiste sur ça. Ça peut paraître autoritaire, mais en fait, l'idée, c'est de dire... Moi, je prescris pas dans mon livre une politique de censure d'État, par exemple. Je dis pas du tout qu'il faut censurer les opinions ou interdire aux gens de s'exprimer. Je dis juste qu'il faut déconnecter la problématique du droit à s'exprimer et celle du droit à gouverner. Donc, les gens ont le droit de parler, ont le droit de dire qu'ils sont pas d'accord, ont le droit de publier des journaux s'ils veulent. Mais le fait de rentrer dans le champ du gouvernement et donc d'avoir du pouvoir sur les autres doit vous faire... nécessairement obéir à un certain nombre de codes de déontologie. Comme dans la police, si vous rentrez dans la police, vous avez un code de déontologie. On sait qu'il fonctionne pas très bien, mais en tout cas, il est normalement abordé. Donc vous avez des armes, donc vous devez avoir un code pour les utiliser. Ben moi, je considère que les lois, les politiques économiques, ce sont des armes. En fin de compte, ça a des effets létals. On le voit sur la pollution, on le voit sur les maladies professionnelles, on le voit sur beaucoup, beaucoup de choses. On le voit sur l'écologie aujourd'hui, le temps qu'il a fallu pour que les rationalités écologiques commencent à avoir des effets politiques. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt en danger. Donc tout ça montre qu'il y a un problème de régulation vitaliste des opinions politiques et qui, à mon avis, pourrait être le ferment d'une autre manière de concevoir l'action politique et le droit à gouverner les autres.
Alors, cette proposition, je pense qu'elle elle a été très bien résumée. Elle suscitera des questions dans notre débat tout à l'heure. Elle va avec une corrélation, on l'a senti là dans cette réponse-là, qui est, vous le dites, une régulation scientifique du discours politique. Alors, ça m'a aussi beaucoup intéressé. On sait qu'on sort, enfin on sort, on y est encore. Hein. On est avec derrière nous 10-15 ans de fake news, 10-15 ans d'attaques frontales envers les sciences, toutes sciences confondues, sciences dures, sciences humaines, où on peut se permettre de dire n'importe quoi chez les gouvernements américains, chez d'autres gouvernements, face à des faits, hein, pas face à des opinions, face à des faits quantifiés par les scientifiques. Et donc, vous vous dites, voilà, il faut en fait remettre en place un contrôle scientifique des décisions politiques. Alors, évidemment, moi, ça, on est toujours un peu... heurté, on se dit, mais en quelle mesure on va pas remettre en place une oligarchie des primus inter pares, des sachants? Donc comment vous voyez ce contrôle scientifique du politique qui resterait quand même dans une société, on va dire, ouverte de ce point de vue-là?
Déjà, je dois dire que il y a un argument très fort de Marcuse dans un texte qui s'appelle La tolérance répressive, que je cite dans mon livre, qui lui est favorable à un gouvernement des savants. Alors moi, je dis que je m'écarte, et avec les arguments de Bakounine, qu'il faut jamais reconstituer une caste parce qu'il y aura les mêmes effets de pouvoir qu'une caste politique. Mais Marcuse lui dit, au moins, c'est la seule forme politique qu'on n'a pas encore essayée, alors essayons. Au moins, ça, on l'a jamais fait, de donner le pouvoir aux savants. On donne le pouvoir sur la migration aux démographes, le pouvoir sur le climat aux climatologues, le pouvoir sur la police aux sociologues de la police. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Déjà, pourquoi pas essayer? Et puis, on verra bien dans 15 ans si ça ne sera pas beaucoup plus catastrophique que la démocratie. En fait, l'idée, c'est de dire, effectivement, comme vous le dites, je pense que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, tous les chercheurs sur un domaine, que ce soit sur la migration, sur les drogues, sur la santé, sur la prison, sentent qu'il y a un écart gigantesque entre ce qu'ils produisent, entre ce qu'ils savent, entre ce qu'ils établissent, et pas seulement les discours qui circulent dans les médias d'extrême droite, mais dans le champ politique, dans la manière dont les lois sont construites, dans les hypothèses qui servent ces lois, dans les chiffres qui sont mobilisés par les hommes politiques. Et je cite notamment les travaux de François Héran sur l'immigration, où il prend des déclarations des ministres de l'Intérieur, de droite, macronistes, etc., et les faits des statisticiens produits par l'INSEE, et qui sont totalement faux, totalement mensongers. Donc cet écart, il est quand même extrêmement frappant. Et ce qui est vraiment fou dans la démocratie, c'est cette espèce de tendance à l'hypocrisie et à la duplicité, qui est un système qui va produire des connaissances, qui va financer la recherche, qui va financer la recherche publique sur un certain nombre de domaines, mais qui va en même temps financer des partis qui vont complètement ignorer la recherche, qui vont même la nier, et qui vont produire des programmes politiques qui n'ont aucun rapport avec les acquis de la connaissance. Donc est-ce qu'on pourrait pas, en fait, de façon assez simple, lier deux domaines que nous avons déliés, si jamais la politique, c'est le lieu où l'homme agit sur l'homme, et si la science, c'est le domaine où l'homme connaît l'homme, alors il semblerait quand même pas inintéressant de lier un peu plus la connaissance de l'homme et l'action sur l'homme que de les déconnecter totalement. Ça, ça me met en écart avec toute une tradition de réflexion sur la démocratie, notamment un texte de Hannah Arendt sur le mensonge, parce que ce qui est très intéressant, c'est que Hannah Arendt dit dans un texte sur le mensonge, et c'est au moment de l'affaire du Watergate, elle tient une théorie vraiment extraordinaire, elle dit « en fait, le mensonge, c'est l'essence de la politique ». Elle dit, puisque la politique, ça doit être la négation de la réalité, ça doit être l'action, ça doit être la projection dans le futur. En fait, il y a quelque chose de l'ordre du mensonge qui est consubstantiel à l'idée de la démocratie, qui est consubstantiel à l'idée de politique. Et donc, elle fait presque un éloge du mensonge comme étant la preuve de notre liberté politique, comme étant la preuve de notre capacité à nous émanciper de ce qui est donné. Et ça, ça a pour conséquence, pour moi, de dire, effectivement, si jamais nous créons des régimes politiques qui érigent l'opinion comme étant la valeur fondamentale et la liberté d'expression de son opinion comme étant la liberté fondamentale, alors effectivement, nous valorisons presque parfois le mensonge comme étant consubstantiel à notre liberté politique. J'ai le droit de le dire, c'est mon opinion, t'as pas le droit de m'interdire de le dire, etc. Et moi, contrairement à ça, je pense que la valeur politique que nous devons opposer à l'idée d'opinion et de mensonge, ce qui veut dire que la fake news n'est pas une dérive de la démocratie, mais consubstantielle à l'idée démocratique, c'est-à-dire de laisser les opinions circuler et de se dire « je n'ai pas à les juger », moi je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas ériger la véridiction comme principe politique fondamental, c'est-à-dire, en m'inspirant d'un texte de Bakounine, de dire en fait bah, « l'une des choses qui peut rassembler les hommes et qui peut fonder des connaissances universelles, c'est la science et c'est la connaissance de l'homme ». À partir de ce moment-là, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que ça voudrait dire qu'un certain nombre de scientifiques, de conseils scientifiques, puissent effectivement censurer des lois, on puisse définancer des partis quand ils sont propagateurs de fake news. Et on sait aujourd'hui que c'est la droite et l'extrême droite qui sont les principaux propagateurs de fake news. Ça a été montré, je le montre dans mon livre, etc. Et donc, en quelque sorte, de dire, vous avez le droit de dire des bêtises dans vos dîners, sur vos réseaux sociaux, mais si vous voulez gouverner, c'est encore le même problème, si vous voulez avoir un droit à gouverner les autres, vous devez normer vos opinions à une certaine exigence de véridiction, et vous devez à ce moment-là vous soumettre à un certain nombre de faits qui sont établis, qui sont clairement établis, et vous ne pouvez pas gouverner au mépris des faits. Je prends l'exemple de la loi Duplomb, dans mon livre qui pour moi était un grand moment politique extrêmement important, puisque la loi Duplomb, comme vous le savez, qui a dérégulé sur les mégabassines, qui a dérégulé l'usage de pesticides extrêmement dangereux et cancérogènes, et connus pour étant cancérogènes, a été appuyée par celui qui les a gouvernés sur des mensonges totaux sur les acquis de la science et sur les effets de cette loi. Et tous les scientifiques, et je cite la liste des gens qui se sont opposés à ça, c'est hallucinant, c'est l'Ordre des médecins, c'est 22 associations environnementales, c'est toutes les associations contre le cancer, c'est les associations de malades, c'est tous les scientifiques, etc. Et donc, si jamais on comprend que vous avez toute la communauté scientifique qui vous dit « cette loi, elle expose des gens au cancer », voilà. Et quelqu'un qui dit « oui, mais c'est mon opinion pour l'agriculture, il faut la voter, je suis majoritaire, donc je le fais », eh bien, si jamais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème là, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème avec la démocratie et qu'on pourrait imaginer qu'un conseil scientifique censure la loi. Et ce qui est étrange, c'est que ça nous paraît fou d'imaginer confier ce pouvoir à des scientifiques alors qu'on le confie déjà à des juristes. Aujourd'hui, dans tous les États démocratiques, et donc ils sont constitutionnalisables, aux États-Unis, la Cour suprême, en France, en Allemagne, vous avez des juristes qui, de fait, ont le pouvoir de casser des lois, même majoritaires, même voulues par le gouvernement, quasi unanimes, parce qu'ils considèrent qu'au nom de la protection d'un certain nombre de libertés fondamentales, vous n'avez pas le droit de toucher à ces droits, et donc vous avez le pouvoir de casser des lois au nom de normes transcendantes qui s'imposent à la politique, et ce qui fait que vous pouvez avoir quatre juges qui censurent un parti qui ferait 80% ou 60%. Et moi, je dis, si jamais on accepte que des juristes le fassent, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas aussi que des scientifiques le fassent? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner aussi à des scientifiques le pouvoir de censurer des lois au nom de la connaissance? Et ça, je pense que ce serait un progrès dans l'espace de la politique, parce que ça permettrait que la politique soit normée à la notion de connaissance, de véridiction, beaucoup plus qu'à la question de l'opinion et du mensonge.
Alors, merci pour ça. On avance vers la fin de l'entretien. Il reste deux questions. On voit donc cette proposition d'objectif de justice avec ce vitalisme. Ce que vous venez de développer, cette idée d'une réintégration des scientifiques dans la décision politique, d'un contrôle des décisions politiques par les scientifiques. Et puis, il y a une troisième pièce qui est un peu plus traditionnelle, parce qu'il y a des réflexions depuis des années autour de Loïc Blandiot, Yves Saint-Omer, sur la démocratie participative, sur la démocratie délibérative. Là, vous avez une proposition plus politique, on va dire, plus peut-être facile à mettre en place, qui est un retour des conventions citoyennes, de la délibération, pour éviter les effets de délégation habituels de la démocratie représentative, qu'on va bientôt vivre partout en France et à Bordeaux le dimanche prochain. Voilà, d'aller mettre un bulletin de vote et puis ensuite d'attendre ce qu'il se passe. Comment éclairer cette question des conventions citoyennes? Comment elles se connectent avec les propositions que vous avez avancées juste là?
Oui, ce qui m'a intéressé dans les conventions citoyennes, c'est pas forcément de les ériger comme des modèles, mais comme des contre-modèles au modèle démocratique, et de montrer comment elles sont le ferment d'une autre culture et d'une autre manière de penser la politique et ce qui légitime la décision politique que les institutions démocratiques. Il y a eu trois conventions citoyennes qui ont été faites en France sur le climat, sur la fin de vie et sur les rythmes de l'enfance. Et ce qui est très intéressant avec les conventions citoyennes, parce que c'est un sujet qui est en cours, en expérimentation depuis les années 70, c'est que les conventions citoyennes ont une dimension qu'on appelle épistémique, c'est-à-dire qu'elles poussent les gens à avoir des décisions progressistes. Et en cela, elle s'oppose aux institutions de la démocratie représentative qui poussent plutôt les gens à avoir des positions conservatrices ou réactionnaires. Ce qui est très frappant de voir, moi c'est ce qui m'a frappé, c'est que l'une des lois de nos sociétés démocratiques, c'est une loi de la droitisation. C'est-à-dire que très souvent, c'est la droite qui gagne les élections. La victoire de la gauche réelle aux élections, c'est une exception en démocratie. Et donc, toute personne de gauche devrait se poser la question de ça, puisque c'est 36, c'est 45 en Angleterre, c'est la Bolivie de Morales, c'est peut-être Chavez au début, etc. Mais en fait, les victoires de la vraie gauche, c'est vraiment extrêmement rare. Et puis, quand des gauches, disons, social-démocrates arrivent au pouvoir, très souvent, elles se droitisent pendant l'exercice du pouvoir, avec Hollande, qui finit avec Valls, Macron, Cazeneuve, etc. Donc vous avez une loi de la droitisation universelle qui élève dans les démocraties. Dans les conventions citoyennes, quand vous tirez au sort des individus, que vous les enfermez pendant 3 mois avec des scientifiques, des juristes, des activistes, des gens qui ont vécu des situations, des connaissances, et qui délibèrent à partir de ces connaissances, vous avez une loi de la gauchisation. C'est très intéressant parce que quand vous prenez la Convention sur le climat, c'est 159 personnes ou 150 personnes. On a sondé leurs opinions au début du processus et ils ont des opinions comparables à l'ensemble des Français, donc qui seraient leurs opinions démocratiques, les opinions qu'ils exprimeraient dans un RIC ou dans un vote. Et puis quand on a fait les propositions 3 mois après, on a constaté que 80% d'entre eux ont changé d'opinion pendant le processus et les propositions de la Convention citoyenne ont été saluées par la France insoumise et par Europe Écologie Les Verts et ont été critiquées par les Républicains et par le Rassemblement national. Et Macron n'en a pris, comme vous le savez, que quelques-unes et a un peu trahi l'engagement de traduire ça en réforme concrète. Donc, vous avez dans les institutions de la Convention citoyenne la preuve que quand vous avez une organisation un peu différente de la conception de ce que c'est faire de la politique, vous aboutissez à des opinions plus progressistes que celles qu'elles sont dans nos systèmes démocratiques. Et donc, j'essaye de réfléchir qu'est-ce que les conventions citoyennes nous apprennent comme théorie de la prise de décision. Alors, par exemple, ce qui est très intéressant dans les conventions citoyennes, c'est que c'est fondé sur c'est pas fondé sur l'idée d'une compétence générale. L'un des principes de la démocratie, c'est de penser que tout le monde a une compétence sur tout et tout le monde peut voter sur tout, que ce soit dans un référendum, que ce soit à toutes les élections, etc. La Convention citoyenne, elle développe l'idée d'une compétence spécifique. C'est-à-dire, on fait une convention climat et pendant 3-4 mois, vous réfléchissez sur une seule question. Et ça ne veut pas dire que vous êtes compétent sur la sécurité, vous êtes compétent sur la police, vous êtes compétent sur la peine de mort. Vous êtes compétent sur une question et la compétence, elle est spécifique. Elle est dynamique, elle est processuelle et elle n'est pas donnée à tout le monde. Évidemment, si vous dites, vous allez fonder des institutions sur l'idée selon laquelle tout le monde n'est pas compétent à prendre une décision, en fait, la décision, vous êtes compétent si vous avez travaillé, vous êtes consacré à un sujet, vous êtes en rupture avec beaucoup des hypothèses fondatrices de la démocratie. Par exemple, dans les conventions citoyennes, vous faites voler en éclats l'idée de communauté politique. Parce que si jamais la décision peut être prise par des individus parce que ils ont acquis des connaissances, il n'y a aucune raison que ce soit forcément des gens du même état que l'État qui va être gouverné. Et dans la Convention citoyenne sur le climat, par exemple, il y avait un demandeur d'asile. Donc on donnait la possibilité de délibérer à quelqu'un qui n'avait pas la nationalité, y compris pour faire une loi qui serait applicable en France. Vous avez cette idée selon laquelle vous avez 150 personnes qui vont pouvoir prendre des décisions qui vont peut-être être minoritaires par rapport à 30 millions de personnes, et qui ne sont pas élus, qui ne sont pas rééligibles, qui sont responsables devant personne. Et donc la légitimité de leurs décisions n'est pas fondée sur l'assentiment de la majorité ou de la population. Elle n'est pas fondée sur la quantité de gens qui soutiennent la mesure. Elle est fondée en fait sur la quantité de temps qui a été passé à réfléchir à la question. Et donc on transfère de la question du nombre, de la quantité des individus qui soutiennent une proposition, la quantité de connaissances ou la quantité d'élaboration qui était derrière. Et plus une opinion a été élaborée, plus elle devient légitime. Donc vous avez une théorie de la légitimité comme quantité d'élaboration et pas comme quantité de votants. Et donc vous voyez que vous avez dans les institutions des conventions citoyennes toute une idée extrêmement intéressante de la politique. Et moi je dis, si j'étais président de la République, l'une des premières mesures que je prendrais, j'identifierais en gros, parce que je pense qu'une société, en fait, c'est très simple à gérer. Moi, contrairement à ce qu'on croit, je pense qu'une société, c'est très simple. Je pense que vous avez 30, 40 problèmes dans une société maximum. Si vous faites bien la liste, vous faites 30 conventions citoyennes et vous appliquez 100% de ce qu'elle décide avec les normes vitalistes et de connaissances et de sciences et de droit. Et je pense que vous réglez 90% des problèmes dans une société.
Alors, je vous jure,
c'est vrai. Pour moi, 2027.
Je souris, mais je donne juste un aspect. Je suis pas là pour raconter ma vie, mais il se trouve qu'avec des collègues sociologues de Sciences Po Bordeaux, au moment de 2018-2019, on a dépouillé toutes les doléances de Gironde dans le sillage des Gilets jaunes et du grand débat national. Et là, je vous donne les chiffres. Hein, toutes ces doléances-là, peut-être vous y aviez participé, etc. On sait qu'il y a une surmobilisation de certaines parties de la population dans ce genre de consultation. Les thèmes de la sécurité, de l'immigration et les thèmes du RN représentaient 3%. Le thème qui émergeait, c'était la remise en place de l'ISF, qui évidemment a été passé à la trappe au moment de la restitution du débat national. Donc, vous voyez, il y avait cet étonnement. Alors là, on n'était pas dans des dispositifs délibératifs, mais oui, vraiment dans une ouverture d'une possibilité de débat à Bordeaux, à Parampuire, à Cestas, enfin peu importe. Et on avait vu ça. Alors, du coup, je termine aussi sur un élément qui, on n'a pas forcément le temps de tout évoquer, les éléments du tirage au sort. Vous vous doutez bien, et après je pose ma dernière question, vous doutez bien que vous et moi, on ne serait pas les mêmes citoyens ou citoyennes entre voter dimanche pour 4 ou 5 ans, ou si on pouvait systématiquement, tous les matins, être tiré au sort sur des questions politiques. Vous voyez bien que notre citoyenneté ne serait pas du tout la même, parce qu'on serait dépositaire d'une responsabilité de savoir ce qu'on pourrait faire. Vous voyez, et ça, c'est montré dans Manin, dans la littérature habituelle, c'est... qu'est-ce que ça fait le tirage au sort? Qu'est-ce que ça fait de pouvoir être décideur? Voilà, on a cette possibilité-là dans les jurys d'assises. Vous voyez, c'est un des éléments. Alors, ma dernière question, vous dites finalement, quand une loi est votée, et en revenant sur Soros ou sur d'autres choses, vous prenez les élections américaines, et ça m'a intéressé parce que c'était provocateur, vous dites, bon, quand Trump a été élu, il y a un certain nombre d'Américains qui ont dit « not in my name, not my president », c'est pas mon président. Et vous proposez de dire, on pourrait imaginer, parce que vous avez dit, vous l'avez peut-être pas perçu, mais la notion de territoire, on gouverne toujours sur un espace, sur un territoire, vous dites, on décohabite, on arrête en fait.
Oui.
Quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Oui. Alors j'aimerais que vous développiez un petit peu ça, parce que évidemment, nous, on a l'imaginaire de la potentielle guerre civile. Comment ça se passe quand on décide de plus être d'accord et de plus habiter le même monde? Voilà, je voulais finir sur ça.
Justement, ce serait l'opposé de la guerre civile, puisque la guerre civile suppose de vouloir normer l'autre à sa loi, et de dire « tu appartiendras à mon territoire et tu te soumettras », alors que moi j'essaye de penser qu'est-ce que ce serait la possibilité pour un autre modèle politique, le droit à la décohabitation et le droit à la sédition. C'est là que j'essaye d'aller chercher vraiment quelque chose de noir dans l'affect démocratique, qui est même dans l'idée de communauté politique. L'idée de communauté politique, elle est extrêmement étrange parce qu'elle fonctionne toujours comme un positif. On a une communauté politique, on délibère, on arbitre, on fait des lois, etc. Mais au fond de cette idée de communauté politique, il y a l'idée selon laquelle j'ai un droit sur l'autre. Il y a l'idée selon laquelle, en tant que nous appartenons en même temps sur un territoire, et du simple fait que je sois né sur ce territoire, et du fait que j'ai le droit de vote, j'ai un peu de droit sur toi, j'ai un peu le droit, malgré peut-être ta volonté, malgré tes désirs, malgré ton mode d'existence, de t'imposer un peu de vivre sous ma loi, ou toi, tu peux m'imposer de vivre sous ta loi, alors que nous n'avons jamais choisi de cohabiter ensemble, que nous n'avons jamais choisi de vivre ensemble. Et donc, même dans l'idée de majorité et de minorité, il y a quelque chose d'une forme d'un sadisme social qui considère que j'ai un droit sur l'autre. Et tu vas obéir à ma loi, tu vas m'appartenir. Et donc, même l'idée de discussion collective et de communauté politique porte en elle de façon ininterrogée cette idée « pourquoi les autres me gouvernent ?» et « de quel droit est-ce que je suis gouverné par les autres ?» Et effectivement, moi, je me suis beaucoup intéressé déjà dans mon livre qui s'appelle « La conscience politique », il y a des textes qui m'ont toujours beaucoup plu du Black Panther Party. Parce que le Black Panther Party est un mouvement très important des mouvements noirs américains des années 60-70 qui s'était opposé au mouvement des droits civiques de Martin Luther King en disant « les Noirs ne forment pas aux États-Unis une minorité qui devrait être intégrée à l'État, mais ils forment une colonie qui devrait être libérée ». Et ils présentaient la police blanche comme une force d'occupation dans les quartiers noirs, et ils présentaient les émeutes des quartiers noirs comme des formes de libération, exactement sur le modèle de ce qui se passait en Algérie, par exemple, et qui pensait les Noirs comme n'appartenant pas à l'ordre américain et voulant se libérer de l'ordre juridique américain. Et ils étaient allés très loin là-dedans, puisqu'ils avaient des ambassades en Algérie, à Cuba. Ils étaient reconnus comme un gouvernement en exil dans certains pays tiers-mondistes du tiers-monde, etc. Donc, ce qui m'a intéressé dans cette idée-là, c'est de me dire, mais en fait, en quoi est-ce que nous avons un droit sur les autres? Et sinon, pourquoi est-ce que nous cohabitons? Pourquoi est-ce que nous disons que la France est divisée en trois blocs? Et pourquoi est-ce que nous ne disons pas que nous sommes trois pays qui sont forcés de cohabiter à cause des structures démocratiques? Après tout, si jamais nous ne sommes pas d'accord, si on ne s'aime pas, si on n'a pas envie de vivre ensemble, si on se fait la guerre, est-ce qu'il est plus simple d'imaginer un État où on va rituellement se faire la guerre alternativement tous les cinq ans et s'imposer ma volonté, ou de décohabiter, de faire trois pays, ou de considérer trois systèmes juridiques différents auxquels on pourrait s'affilier sans nécessairement déménager? J'essaie de réfléchir à des systèmes comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, plutôt que de s'imposer mutuellement notre volonté à travers des élections, on pourrait tout simplement faire sédition et vivre dans des territoires autonomes ou vivre sous des légalités autonomes, parce qu'on peut imaginer des droits qui ne soient pas forcément connectés au territoire. Et donc, de ce point de vue-là, pourquoi est-ce que l'idée démocratique... Est-ce que l'idée démocratique ne porte pas en elle la répression d'un problème politique fondamental qui est celui de l'appartenance et de la communauté politique, qui nous renvoie, et ça nous permet de faire du retour à Rousseau et aux théories du contrat social? C'est que dans toutes les théories du contrat social, on prend toujours les gens avec qui on contracte comme un donné. Donc les gens sont là et on contracte pour faire une société politique. Et moi, la question que j'ai voulu poser, mais c'est que le contrat social contractualise tout sauf avec qui on contracte. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire rentrer l'espace des gens avec qui on contracte comme une question politique, et donc effectivement de pouvoir décontractualiser ou recontractualiser un certain nombre d'appartenances? Imaginez, vous vivez aujourd'hui en France et quelqu'un tout d'un coup dit « moi je veux abolir la sécurité sociale ». Imaginez un parti qui dirait « moi je suis contre la sécurité sociale ». Et maintenant vous avez deux systèmes politiques possibles. Vous avez un système politique qui lui dit « d'accord, c'est ton opinion, et si tu deviens majoritaire, tu pourras démanteler la sécurité sociale ». Et même vous, j'imagine qu'ici vous êtes tous pour la sécurité sociale, vous devrez subir sa loi parce que 50% des gens auront décidé de lui donner la confiance, et vous êtes enfermés dans des structures politiques qui vous obligeront à vivre dans un monde que vous ne voulez pas à cause de la démocratie. Donc la démocratie a un rapport à la prise d'otage, à la captation, à l'enfermement. Et si vous dites « bah très bien, fais ton monde ». Crée-toi un monde sans sécurité sociale. Tu n'adhères plus à la sécurité sociale, mais tu n'as plus accès à l'hôpital public, tu n'es plus remboursé pour tes traitements, etc. Et vis ta vie. Et bien, en fait, ce serait beaucoup mieux comme ça. Comme ça, lui vit sa vie sans sécurité sociale. Nous, on continue à vivre la nôtre et on ne se fait pas la guerre. Voilà.
Alors, je ne doute pas qu'on fonderait tous ensemble, j'en prends acte ce soir, la commune libre de Mola, intitulée Station aux zones. Et merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.